One, two, ten, shake. It's okay. That's it, man.
Provoscopie, l'émission politique de Divergence, une émission spéciale aujourd'hui, donc en direct avec aux commandes le loup, le renard et la belette, et avec nous pour vous un nouvel animal, Manuel Valls, un vrai blaireau, non pardon, un blairiste selon certains de ses biographes. Cadre finissant, il associe de commun avec Jean-François Copé quand il déclare mon plus dur supplice en politique et la perspective de devoir attendre 20 ans avant d'être élu président. Il est à Montpellier en la compagnie fraternelle de Philippe Sorel, un de nos candidats préférés à la mairie, pour la promotion de son livre Pouvoir, mais peut-être aussi pour d'autres raisons à voir. Nous allons parler, discuter, pinailler, diverger avec lui durant une courte demi-heure, c'est son choix. Il nous dira tout sur la deuxième gauche non royaliste qu'il entend incarner. Il nous expliquera ses mouvements de balancier européen. Il nous glissera à l'oreille les raisons de l'ostracisme qu'il a lancé à l'encontre de Georges Frêche. Bien sûr, nous partons pour 30 minutes à la découverte d'un politique en quête de pouvoir. Il nous expliquera en quoi cela ne serait pas tout à fait banal. De quoi passer un petit moment citoyen, vous en conviendrez. Et maintenant, place au palabre. Alors, divergentes et divergents, j'espère que vous êtes bien réveillés. Et avant tout, bonjour Manuel Valls, merci de venir dans nos studios.
Bonjour à vous.
Bonjour. Oui.
Et puis avant tout, la question qui tue. Manuel Valls, quel type d'homme politique êtes-vous? Si l'on en croit Arthur Schnitzel, il y aurait trois sortes d'hommes politiques. Ceux qui troublent l'eau, ceux qui pêchent en eau trouble, et ceux plus doués qui troublent l'eau pour pêcher en eau trouble. Vous faites partie de quelle catégorie?
D'aucune. Et je connais bien cette citation. Non, vous savez, moi je suis un Méditerranéen, donc je suis né au bord de la mer Méditerranée à Barcelone, mais je suis un élu maintenant de la région parisienne, et donc je suis un homme de terrain, un élu qui adore sa fonction de maire d'Evry, et qui aime les gens. Voilà, c'est ce que doit être un responsable politique, un élu au service des citoyens, au service de l'intérêt général, sans nier évidemment, parce que sinon on ne ferait pas de politique, ses ambitions... pour sa ville, pour son pays, pour ses idées, pour lui-même. Donc, un responsable politique ancré dans la réalité de ce pays.
Donc, vous n'êtes pas un pêcheur?
Ça dépend sur comment on prend le mot. Si c'est une vision très catholique, je dois être pêcheur plusieurs fois par jour. Pêcheur en eau trouble, non, parce qu'au contraire, on me reconnaît au moins parmi mes qualités, parfois parmi mes défauts, plutôt de la clarté.
Bon, ben comme ça, on a commencé à découvrir Manuel Valls. Alors, vous sortez un livre, Pouvoir, le titre Pouvoir. Pouvez-vous nous le dire juste un coup, Pouvoir? Comment ça fait dans votre bouche?
Pouvoir.
Ça, c'est bon. C'est pas une obsession. C'est quoi le pouvoir pour vous?
C'est l'exercice du pouvoir. Parce que je fais partie de cette gauche qui assume l'exercice du pouvoir. Mais le mot, vous l'avez bien compris, c'est dans les deux sens. Je dis que la gauche a parfois un problème avec le pouvoir parce qu'elle le magnifie, parce que pour elle, c'est l'occasion de tout changer. Et en même temps, elle le craint parce que quand on exerce le pouvoir, eh bien, on se heurte à la réalité et donc parfois et souvent à la déception des citoyens. Et puis, c'est conquérir le pouvoir pour l'exercer et pour répondre aux aspirations des gens, d'abord.
La politique, avant toute chose, est-ce que ce n'est pas vouloir plutôt que pouvoir?
Oui, mais pour vouloir, il faut, et pour ne pas en rester aux
est-ce que ce n'est pas restrictif, pouvoir? Alors que vouloir donne justement du sens.
Oui, mais moi, je n'oppose pas d'ailleurs les verbes les uns avec les autres. Par ce titre, j'ai voulu affirmer une ambition. Celle de l'exercice du pouvoir, celle de ma candidature à l'élection présidentielle à travers les primaires que le Parti socialiste veut organiser en 2011. Et puis pouvoir, parce que aujourd'hui on se heurte au scepticisme des gens. La parole politique est de nouveau extrêmement décrédibilisée. La parole politique, mais d'une manière générale, des élites politiques, culturelles, économiques. Donc pouvoir, mais pouvoir, ça n'est absolument pas opposable à vouloir, parce qu'il faut de la volonté. Mais cette volonté, elle doit être à l'aune aussi de ce que sont les réalités du monde, des réalités du pays. Et il ne faut pas mentir aux Français, il faut leur indiquer le chemin pour voir ce qu'on peut et ce qu'on peut à partir de ce qu'on veut.
Et puis il y a pas un petit plaisir aussi à vouloir exercer le pouvoir sur les autres. Moi, ça m'étonne toujours, ces gens qui volent le pouvoir. Pour moi, ça frise presque la pathologie.
Mais il faut que vous lisiez le bouquin d'Onfray, là, sur Freud, là, parce que ça vous correspondrait, alors.
Retour de Valais.
Mais, oulala, si on rentre...
On n'est pas Roland Garros, ici.
Vous savez, le pouvoir, il s'exerce, y compris dans l'animation d'une radio comme celle-ci, à la tête d'un club de foot, dans l'exercice du pouvoir. Moi, j'ai pas une envie de domination des autres. Je respecte profondément la démocratie, le corps électoral, c'est eux, les Français ou les électeurs d'une manière générale qui décident. Alors si on rentre dans ce qu'il y a dans notre cerveau à chacun d'entre nous et sur l'envie de domination, alors là, je ne savais pas que cette émission nous mènerait à cette recherche de soi-même.
C'est divergent, on sait toujours d'où on peut, on ne sait jamais où on va. Quoi.
Voilà, exactement. On va rester là.
Alors justement, on va aller un petit peu plus loin. On va parler de la deuxième gauche. Parce que moi, j'ai vu, au niveau de vos écrits, vos discours, vous vous réclamez de cette deuxième gauche. Et puis pour nos auditeurs, il faudrait peut-être revenir un petit peu sur ce qu'est la deuxième gauche. Cette deuxième gauche, elle a été un peu initiée par Michel Rocard, une espèce de deuxième gauche anti-mitterrandienne, une deuxième gauche qui est plus centriste que gauche-gauche proprement dite, qui se rapproche un peu des démocrates chrétiens. Et il semblerait que quand vous avez adhéré au niveau du Parti Socialiste, c'était presque, bon, pour soutenir Rocard, mais presque déjà d'entrée par anti-mitterrandisme. Et vous avez fait quoi, Mitterrand ? Vous l'aimiez pas, ce garçon ?
Non, pas du tout. Moi, j'avais 17-18 ans. J'ai adhéré au Parti Socialiste pour soutenir Michel Rocard. Parce qu'il faut se rappeler de l'époque, 79-80, c'est lui qui apparaissait comme plus moderne. Il était plus jeune. Alors que dans ma famille, mon père était installé en France depuis la fin des années 40. Mitterrand était, pour aller vite, le vieux politicien. Mais très vite, François Mitterrand a été désigné comme candidat du Parti Socialiste pour l'élection présidentielle. J'ai fait avec enthousiasme sa campagne. J'étais le 10 mai 80 à la Bastille. Mais comment dire les choses ? Je trouve votre vision de la deuxième gauche extrêmement restrictive et d'ailleurs très politicienne. La deuxième gauche, c'est pas ça. C'est pas uniquement l'opposition à Mitterrand. Il y a une opposition entre Mitterrand et Rocard. Non, la deuxième gauche, c'est d'abord la décentralisation. Il faut jamais oublier que Michel Rocard apparaît, là, on va faire un peu d'histoire, dans le paysage politique français en 1965, parce que c'est... le colloque de Grenoble sur la décentralisation avant l'heure. C'est une gauche qui met plutôt l'individu au cœur de son projet plutôt que la seule réponse de l'État. La deuxième gauche aussi, ça a été dans son histoire la lutte contre le colonialisme, la lutte pour la libération d'un certain nombre de peuples. C'est une vision peut-être plus sociétale et moins politique ou moins politicienne de la société. Elle s'est plutôt inspiré davantage de mai 68 que du léninisme. Voilà, donc on peut la définir aussi de manière à travers des idées plus théoriques que uniquement à travers les combats qui existent dans la vie politique et dans la démocratie qui opposent des partis ou des hommes.
Et cette deuxième gauche, est-ce qu'elle n'est pas proche, assez proche des chrétiens démocrates ?
J'avais jamais entendu parler de
entre social-démocratie, deuxième gauche.
Surtout honnêtement venant de Michel Rocard, qui alors lui vient du protestantisme. Non, je crois pas. Il y a eu dans le rassemblement et dans la construction de la victoire de 81 de la gauche, il y a eu des courants chrétiens de gauche. Qui venaient de la jeunesse ouvrière chrétienne ou de la jeunesse étudiante chrétienne, qui se sont aussi bien retrouvés parmi les amis de Michel Rocard que des amis de Jean-Pierre Chevènement. C'est tout le courant qui venait de la CFDT. Et c'était cette capacité d'ailleurs de la gauche à ce moment-là à s'adresser à tous et à tous les Français, quelle que soit d'ailleurs leur croyance. Mais moi, je suis très respectueux évidemment des croyances et des religions. Je suis en même temps profondément laïque. Je crois aux vertus du vivre ensemble français, de son modèle, même s'il faut le reconstruire parce qu'aujourd'hui il est très touché, très atteint par la crise politique, par la crise économique, par la politique de Nicolas Sarkozy. Non, je crois, moi, ces histoires de centrisme, de rapprochement à les démocrates chrétiens, vous savez, l'ouverture à la droite, comme celle que Sarkozy a faite vis-à-vis de la gauche en 2007, c'est Mitterrand qui l'a réalisé, ne l'oublions pas, en 88, hein, Durafour, Stoléru, Jean-Pierre Soisson, même si c'était le gouvernement de Michel Rocard, c'est François Mitterrand qui l'a imposé à l'époque.
Et puis en même temps, quand vous vous réclamez de quelqu'un comme Tony Blair, donc social-démocrate, parti travailliste, enfin le New Labour, donc c'est plus tout à fait ce que c'était avant. Et puis Tony Blair, qui à peine lorsqu'il quitte le gouvernement, se convertit au catholicisme, donc chrétien-démocrate quelque part, vous vous retrouvez un petit peu là-dedans, non ?
Non. Alors vraiment, là, c'est tiré par les cheveux davantage. Non, non. Moi, je pense, moi, je suis un social-démocrate, même si en France, ça ne veut pas dire grand-chose. Je l'étais d'ailleurs déjà à 17-18 ans. Je n'ai jamais été trotskiste. Je ne viens pas du Parti communiste. Je ne viens pas de l'extrême gauche. C'est mon histoire. Elle est aussi respectable que celle des autres. Moi, j'étais très. À l'époque, j'aimais. Ma culture, c'est une culture qui est celle de Furet, de Camus, de Solzhenitsyn, de l'antitotalitarisme, d'une famille marquée par la guerre civile au sein de la guerre civile.
Donc anti-marxiste, quand
même. À Barcelone. Non, j'ai pas dit ça. Anti-totalitaire. Je ne confonds pas d'ailleurs le marxisme avec la dérive léniniste et stalinienne, et l'apport de Marx à l'analyse du capitalisme est tout à fait essentiel au cours du 19e siècle. Non, pas du tout. Mais c'est le Camus, Koestler, Furet, oui, c'est un rapport moins violent à la politique que l'a été le marxisme, et en tout cas, c'est dérivé. Mais c'est d'abord ça qui m'intéresse. Mais j'étais social-démocrate et je croyais beaucoup, par exemple, à l'émergence de figures comme Felipe González en Espagne à ce moment-là, alors qu'en France, tout le monde attendait la victoire du Parti communiste, et à la relation avec la social-démocratie allemande qui était incarnée à l'époque par Willy Brandt, qui correspondait, à mon avis, plus à ce qu'on pouvait faire pour transformer la société que parfois les discours de la gauche française, mais qui se heurtent très vite à la réalité de l'exercice du pouvoir.
Qu'est-ce qui vous rattache au Parti socialiste ?
Mais une histoire profonde, un militantisme engagé.
Est-ce que c'est pas restrictif, ça, quelque part, l'individualisme, je dirais, humaniste, ça fait peut-être un peu court par rapport à une vision socialiste, même.
Mais si vous me définissez ce que la vision socialiste de la société, je vous suivrais. Mais non, Jaurès disait.
Ça, je reconnais que le Parti socialiste a du mal déjà à le définir.
Jaurès disait le socialisme, c'est l'individu jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça a été le socialisme, sinon la volonté d'émanciper l'individu par rapport à l'économie, par rapport au capitalisme. C'était ça. Le problème, c'est qu'il y a toujours eu un débat dans la social-démocratie allemande comme dans la gauche française, entre une vision très étatiste qui pense que tout vient d'en haut et qu'au fond, les partis et les États sont là d'une certaine manière pour remplacer les hommes, et une autre vision qu'on a retrouvée dans la gauche, mais dans le monde, pas seulement en France, qui mettait l'individu, l'humanisme au cœur de l'essentiel. De ce point de vue-là, Jaurès, qui venait d'une tradition catholique, qui était un humaniste, qui pensait l'homme avant tout, qui est un homme foncièrement bon, je crois on peut le dire ainsi, est une figure particulièrement intéressante. Non, le Parti socialiste, c'est un parti, c'est sa force et sa faiblesse aussi. C'est qu'il est très ouvert, très poreux à la société, qu'il a parfois du mal évidemment à se définir. D'ailleurs, dans mon bouquin, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie à la fois de marquer quelle est la différence, parce qu'aujourd'hui les gens sont un peu troublés, entre la gauche et la droite, et je la place notamment sur la question des inégalités, et sur quel but, sur quel cap aujourd'hui doit se redéfinir la gauche dans le monde tel qu'il a évolué. La chute du mur de Berlin, la globalisation économique qui met à mal les fondements de l'État-providence sur lequel la social-démocratie européenne et la gauche sont construites depuis un siècle, et mon bouquin fait plutôt œuvre utile. Après, on peut être d'accord ou pas, mais alors que personne, y compris autour de cette table, sinon je vais me fâcher, ne remette en cause mon engagement à gauche. Mais le vrai problème, et c'est ça qui est sympa d'être de gauche, c'est on débat, parfois on bavarde.
Alors, le garçon, il n'aime pas qu'on dise qu'il est sarco-compatible.
Non, mais d'une certaine manière, au fond, les étiquettes, je m'en fous. Et d'ailleurs, ceux qui, en général, sont les plus à gauche, c'est ceux qui terminent avec Sarko.
Alors...
C'est à mourir.
Bon. Ça, attention, c'est en direct, on ne va pas revenir dessus. Bon. Et alors, je voulais qu'on revienne sur une de vos phrases fétiches, qui justement, vous dites, vous êtes un peu aussi l'enfant de 68, vous faisiez la différence justement au niveau de cette social-démocratie. Vous dites souvent que votre but est de permettre à chacun de devenir ce qu'il est.
Pas vous ?
Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Je me réclame comme étant nietzschéen. Enfin, vous savez quand même que cette phrase, elle vient de Nietzsche.
Oui,
du savoir.
Eh, mais c'est très bien, vous voyez comme
je ne savais pas qu'on était deux en France à gauche à être nietzschéen compatible socialiste. Je ne savais pas.
Non, mais parce que moi, je crois...
Je croyais tout seul.
Ce qui m'intéresse avant tout, mais vous savez, pas comme responsable politique, mais uniquement comme quelqu'un qui cherche à réfléchir au sens de l'existence de la vie, pour lui et pour la société. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce drôle d'animal que nous sommes. Vous avez commencé à parler d'animaux un peu sympathiques, d'ailleurs, en parlant de blaireaux. Mais ce qui m'intéresse...
Non, c'est un mauvais jeu.
Mais ça, ce qui m'intéresse, c'est l'animal.
Sachant qu'autour de la table, vous avez le loup, le renard et la belette.
C'est pratique, le blaireau.
Absolument. Comme le loup et la belette. Et c'est une belle chanson. Mais non, ce qui m'intéresse, c'est l'animal très particulier que nous sommes. L'homme, parce que c'est le seul qui peut réfléchir, et c'est d'ailleurs son tourment et sa force à lui-même. De ce point de vue-là, Nietzsche est tout à fait intéressant, même si toute la question ensuite de surhomme mériterait un débat en soi. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'aborder le thème dans cette ce qui m'intéresse, moi, c'est que précisément, effectivement, chacun d'entre nous puisse s'épanouir. Et le rôle de la politique, de la puissance publique, de la société, c'est de lui permettre de se frayer ce chemin. De ce point de vue-là, c'est pas tellement Blair qui m'intéresse en soi. Blair est un responsable politique qui a en plus commis deux erreurs gravissimes. Le rapport à l'argent qui a été sans commune mesure avec ce qu'on assiste ailleurs. Évidemment, l'engagement auprès des Américains dans la guerre en Irak. Mais ce qui m'a intéressé, c'est son penseur, c'est Giddens. C'est-à-dire l'idée, au fond, que la société est là et ses moyens publics pour aider chacun à se frayer un chemin. C'est quoi ? C'est aider le gamin qui est en échec scolaire plutôt que d'avoir une seule réponse égalitaire et standardisée, l'aider lui, sa famille, dans l'environnement scolaire et social, ou c'est de dire dans une réforme des retraites, notamment à la carte, ou choisi, comme le propose d'ailleurs aujourd'hui le Parti Socialiste, à lutter contre les vraies inégalités, je pense notamment à celle qui fait qu'un ouvrier vit 7 à 9 ans de moins qu'un cadre du privé ou la fonction publique. Voilà, et je pense que nos politiques publiques, locales, nationales, doivent aider chacun dans son émancipation.
C'est la société civile, enfin la société, on va dire, l'organisation sociale au service de l'individu.
Oui, mais pourquoi l'opposer ? Parce que je pense qu'en même temps, cela permet ce lien social qui est
le problème, il arrive lorsqu'on prononce le mot organisation. Parce qu'à partir de ce moment-là, fondamentalement, que la société soit au service de l'individu, je dirais que ça coule de source. Mais c'est à partir du moment où on pose le problème organisation de la société, ou à partir de ce moment-là, les choses se compliquent.
Oui, parce que c'est compliqué, la société, la démocratie.
Et c'est là où, effectivement, on peut... C'est autour de ces mots-là que les clivages politiques se forment.
Et oui, mais pas forcément là où on les attend. Et au fond, quand vous regardez ce qui s'est passé ces dernières années, vous avez des apparitions fortes de mouvements qui revendiquent des nouveaux droits pour les individus. Dans le mouvement altermondialiste écolo, vous avez ça. Au fond, par exemple, dans le mouvement écolo, vous avez la tentative, la synthèse du combat que chacun d'entre nous mène pour sauver la planète, son environnement, c'est-à-dire tout simplement l'être humain. Un combat personnel, y compris chacun d'entre nous peut agir. Et en même temps, c'est un combat planétaire, parce que s'il n'y a pas ce combat planétaire, la planète brûle. Donc vous avez ces apparitions. Moi, je crois que toute la difficulté du politique dans l'économie globalisée telle qu'elle est, avec la crise que l'État-providence connaît depuis 20 ou 30 ans, crise des finances publiques aussi, c'est l'articulation permanente entre l'individu et le collectif. Alors, en ayant dit ça, j'ai pas dit grand-chose, sinon de placer le défi. Et effectivement, les clivages politiques y rentrent, c'est-à-dire où on place le curseur. Je crois que c'est ça qui fait quand même la différence entre la droite et la gauche, parce que la gauche considère qu'au fond, celui qui naît dans un environnement prédéterminé, il a moins de chances que d'autres.
Alors, si vous voulez bien, de la planète, retombons sur Terre et à Montpellier. Et j'aimerais bien que vous nous précisiez un petit peu votre pensée là, par rapport à Montpellier, le Languedoc. Parce qu'il semble que vous soyez en désaccord, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la grande majorité des socialistes d'ici. Je veux dire par rapport à Georges Frêche. Autrement dit, vous êtes en désaccord avec des garçons comme Patrick Vignal, Michael Delafosse, Philippe Sorel, qui se sont rangés incontestablement derrière Georges Frêche. Alors, comment est-ce que vous êtes compatible avec les socialistes d'ici, sachant qu'ils sont rentrés, le moins qu'on puisse dire, c'est en dissidence ?
Mais d'abord, moi, je suis venu ici à l'invitation de Philippe Sorel, qui est un ami, Deuxièmement, parce que je suis passionné par l'urbanisme, l'aménagement, et parce que je considère que en France, vous savez, grâce au bouquin que je viens de publier, je me déplace un peu partout, à Lyon, à Strasbourg, à Lille, à Grenoble, aujourd'hui à Montpellier, j'étais il y a quelques semaines à Marseille, je serai à Dijon la semaine prochaine. C'est passionnant parce que je prends un peu de temps, pas suffisamment, pour découvrir le pays, pour voir les gens, pour rencontrer des journalistes, des architectes, les élites culturelles, sociales, économiques d'une ville. La France n'a pas compris qu'il y avait de la décentralisation. Et toute la vie politique est organisée dans un débat entre Paris et le reste du monde. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et moi, ça m'intéresse.
Donc, vous sentez que vous avez eu faux en vous mettant contre
je connais très bien Montpellier, que je connais bien Georges Frêche, que nous avions une passion commune et un ami commun qui est Ricardo Beaufil. J'ai dit il y a quelques mois ce que je pensais d'un certain nombre de déclarations de Georges Frêche. Je suis un responsable politique national, je suis un parlementaire, je peux quand même m'exprimer. En même temps, les électeurs ont parlé.
Vous lui reprochez quoi, Georges Frêche ?
Mais moi, j'ai pas envie.
Quelle différence idéologique entre Georges Frêche et vous ?
Je suis pas sûr que sur le fond, il y en ait beaucoup. Mais notamment sur la vision de la ville, de cette volonté de mélanger public et privé, mais où le politique donne le là. Il a transformé. Mais je l'ai toujours dit, c'est un formidable bâtisseur, Montpellier. Il y a eu un certain nombre de déclarations qui m'ont pas plu, je l'ai dit. Mais j'ai pas envie, au fond, on va pas refaire le débat d'avant les régionales. Je me permets de vous rappeler, que je ne suis pas élu du Languedoc-Roussillon et encore moins de Montpellier. Le Parti Socialiste a pris ses responsabilités, les électeurs ont tranché. Je crois que maintenant, il faut qu'on rentre dans une phase à la fois de réconciliation, de reconstruction.
De réconciliation avec Paul Alliès, qui est la cheville ouvrière de la réconciliation sur Montpellier,
c'est pas gagné. De reconstruction, de réconciliation. Et peut-être pour cela, il faut des acteurs nouveaux dans l'avenir, non ?
Hein, pourquoi pas ?
Peut-être, hein, il faut peut-être qu'on commence à
Paul Alliès au chômage, bon, d'accord.
À changer, je ne pensais pas particulièrement à lui. Voilà, et puis demain, il y aura d'autres échéances. Il faut qu'elles soient incarnées aussi par des hommes nouveaux, qui ont une belle vision de la ville.
Paul Alliès, qui est l'homme, entre guillemets, d'Arnaud Montebourg. Vous avez quelle relation avec Montebourg, je veux dire, sur le plan idéologique
J'ai parfois du mal à le suivre, pas vous ?
Oui.
D'accord.
Alors, revenons sur Montpellier, proprement dit.
Ça peut fouiller, là, votre interview, là.
Revenons sur Montpellier, là. Et puis parlons de notre maire, Hélène Mandrou. Hélène Mandrou, qui a été donc tête de liste au niveau des régionales, qui s'est pris une veste. C'est plus une veste, c'est une défaite pratiquement historique, puisqu'elle a fait en gros 10% sur la ville de Montpellier, quoi. Quand Georges Frêche faisait 41%. Ça n'a pas été une bêtise énorme du Parti Socialiste que d'entraîner Hélène Mandrou sur cette affaire-là ? Est-ce qu'elle n'est pas maintenant définitivement décrédibilisée ? Ce qui donne du coup des opportunités à des Patrick Vignal, Michael Delafosse et Philippe Sorel de se porter à la candidature de la mairie pour 2014. Elle est grillée, Hélène Mandrou, non ? Vous l'avez grillée quand il vous parle par Manuel Valls, le Parti Socialiste.
Je vous remercie de faire la distinction que le Parti Socialiste ait pris un certain nombre de décisions un peu tardives. Ça n'échappe à personne. C'est pour ça que je parle de réconciliation, de reconstruction et de préparation de l'avenir. Ne confondons pas par ailleurs les échéances. Il n'échappe à personne que Georges Frêche a marqué et marque l'histoire de Montpellier, du Languedoc-Roussillon. Je suis pas sûr effectivement qu'on ait fait un cadeau à Hélène Mandrou, mais je vais pas en rajouter moi au moment où je dis qu'il faut reconstruire et réconcilier. Mais vous avez cité des gens intéressants, notamment Philippe Sorel, pour préparer l'avenir.
Alors justement, on va en venir. On a trois candidats à gauche déclarés
déjà
pour la mairie de Montpellier. Philippe Sorel, qui a été, je crois, le premier qui s'est déclaré, Patrick Vignal, Michael Delafosse. Alors vous, là, Manuel Valls, pour qui va votre préférence parmi les trois ?
Quand vous parlez de trois candidats, je pensais que le
vieux couillon qui est Philippe Sorel ou le jeune qui est Michael Delafosse.
Parfois, pour préparer les échéances pour des villes aussi importantes, il vaut mieux des vieux couillons, c'est ça ? Mais
c'est une question.
Quand vous avez parlé de trois candidats, je pensais que vous alliez parler de Martine Aubry, de Dominique Strauss-Kahn ou de moi-même pour l'élection présidentielle. Donc moi, je suis candidat à l'élection présidentielle à travers les systèmes des primaires. maire. Je ne suis pas analyste des problématiques de la ville de Montpellier. Et si les Montpelliérains choisissaient eux-mêmes, ça serait pas mal. Je ne suis pas sûr que ma contribution sera extrêmement utile. Mais il ne vous a pas échappé que je viens à l'invitation de Philippe Sorel.
D'accord. Bon, donc là, on a tout bien compris. Donc, il soutient Philippe Sorel sur ce coup-là.
Bon, il n'y a personne. Et en tout cas, Philippe, il a d'autres échéances à venir, à commencer par les cantonales de l'année prochaine.
Bon, bah, si vous voulez bien, pour terminer notre petite conversation, qu'on revienne à vous, véritablement.
Très courte.
J'ai vu que vous étiez marié à une violoniste. C'est pas un peu dur au quotidien, je vous dis ça, parce que moi j'ai ma sœur qui est premier violon à l'Opéra de Paris, et toute petite, elle a grincé les oreilles, du coup je hais le violon. J'aime bien ma sœur, mais j'aime pas le violon. C'est pas un peu dur.
D'abord, je suis pas marié encore. C'est que dans quelques semaines que je me marie.
Félicitations.
Deuxièmement, je suis amoureux. Quand vous êtes amoureux, vous prenez quelqu'un avec toutes ses qualités. Troisièmement, moi, j'étais fils d'artiste peintre. Donc, l'art, la musique, c'est mon univers.
Façon, ça fait moins
de bruit. Et puis, franchement, le son du violon, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et puis Anne, en plus, elle est éclectique. Elle peut accompagner Woolsey dans sa tournée. Elle peut jouer à l'Opéra de Paris, comme c'est le cas. Être le violon solo de Carmen, qui va jouer d'ailleurs dans la région dans quelques semaines, à Carcassonne. Bon, voilà. Et puis,
donc, c'est pas trop dur au quotidien.
Non, au contraire, c'est un bonheur même. Mais je vois, je me rends compte que vous avez des problèmes de famille, là, à Lourdes. Hein.
Non, mais c'est que moi, ma frangine a commencé à l'âge de 4 ans et ça a grincé pendant alors, moins 5 ou 6 ans.
Ça laisse des traces. Ma fille, elle qui a 10 ans, a commencé le violon il y a 3-4 ans et au début, c'est vrai, ça peut être un peu...
Donc là, c'est pour ça que vous avez divorcé, alors.
Absolument pas.
On plaisante. Si on revient un petit à vos études, quand on regarde sur le net, au niveau de votre biographie, on s'aperçoit que vous avez fort bien réussi vos études en politique, peut-être moins bien en histoire.
C'est vrai ça. C'est vrai. Vous savez, j'ai sacrifié en grande partie mes études pour l'engagement politique. Mais vous n'avez pas porté un jugement, là.
C'est un constat.
Absolument. Grande dame de ma maman, j'ai pas fait l'ENA.
D'accord. Bon.
Mais ça préserve parfois.
Bon, ça c'est le côté sarco-compatible, ça. Bon.
Ah voilà, ça y est. Parce que quelqu'un qui n'est pas énarque, il est sarco-compatible. Dis donc, comme il doit y avoir quand même 64 millions de Français et quelques qui n'ont pas fait l'ENA, ils ne sont pas tous actuellement, si j'en crois à ce qui se passe dans la rue ou dans les enquêtes d'opinion, ils ne sont pas tous sarco-compatibles.
Hein.
Oui, mais je me disais, parfois on en retrouve hein, ici. Hein. Bon, vous avez refusé.
Ouais. Et revenons sur une chose, parce que ça m'a un petit peu étonné. Vous êtes catalogué comme franc-maçon. Et puis d'un certain côté, quand on regarde au niveau du net, il l'a été, il ne l'est plus, il est en sommeil, mais il l'est encore. Il est pote, grand pote avec Alain Bauer, ce qui expliquerait le sarco-compatible.
C'est l'obsession.
Il est fraternellement invité par Philippe Sorel, ce qui semble aussi compatible. Vous en êtes où là-dessus, quant à vos relations avec la franc-maçonnerie d'une part, et puis avec Alain Bauer d'autre part?
Alors, Alain Bauer est un ami depuis 30 ans, et quand on a des amis, vous les aimez au-delà de leurs opinions ou de nos divergences politiques. Moi, si je n'avais que des amis qui pensaient comme moi, je considérais que la vie, peut-être vous aussi, serait relativement triste.
C'est pour ça qu'on vous a
invité. Voilà, j'ai bien compris. Et après, on ira boire un coup. Et si vous aviez bien lu mon livre, ce qui n'est pas le cas et je le regrette, vous auriez vu que je le dis très clairement. Moi, je suis rentré au Grand Orient de France il y a déjà 20 ans. Et pas du tout pas à travers Alain Bauer. Je vous livre une confidence que je cherchais, moi aussi, non pas des relations politiques, comme c'est trop souvent le cas, mais une réflexion. Et il y a déjà plus de 10 ans que je ne fréquente plus le Grand Orient de France et dont je ne suis plus membre, tout simplement parce que mon activité politique ne me permet pas d'être suffisamment assidu. Voilà. Mais j'en garde que des bons souvenirs, des amis, et je ne le regrette absolument pas et je ne m'en cache pas. Pourquoi s'en cacher, d'ailleurs ?
Alors, pour terminer, il y a aussi une expression qu'on retrouve assez souvent chez vous. Le besoin d'optimisme. Qui a besoin d'optimisme aujourd'hui ? Les Français ou vous ?
Moi, je suis volontariste et optimiste par nature, mais en tout cas, vos auditeurs de ce matin, on n'en rien à fiche de ce que je pense, moi, sur ce sujet-là. Je pense que la société a besoin d'optimisme, mais pour cela, il faut donner envie aux Français d'être optimistes. Il y a une forme de rancœur. Le président de la République actuel a
donné envie, désir,
trop souvent,
désir d'avenir un peu, non
c'est un beau titre, d'ailleurs. A jeté trop souvent les Français les uns contre les autres. On sent une tension dans la société. Et donc, je pense qu'on a besoin de cet optimisme. Mais à travers ma belle balade en France, je suis convaincu que c'est le cas dans une ville comme Montpellier. Il y a de l'optimisme. On est heureux de vivre dans cette ville. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis de vie quotidienne, de soucis personnels. Désir d'avenir, c'était un beau titre. Mais très souvent, comme avec Ségolène Royal, les titres étaient pas mal, mais le contenu laissait à désirer.
Bon, avec Manuel Valls, une courte émission, mais dense, c'est le moins qu'on puisse dire. Le petit générique de fin, Manuel Valls, le générique de fin, c'est Triane, le loup, le renard et la belette.
Ah ben, j'ai bien compris, c'est encore mieux que la musique militaire du début. Hein.
Merci d'être venu. Merci d'être venu.
Merci à vous.
Bonsoir.
Avancez dans le pré, à manger tout le foin.
La jupe de Michaud et son petit poulain.